Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks.
Et non, et non, nous ne sommes toujours pas des terroristes.
Toujours pas.
Divergence numérique avec le retour de Pascal Rullier, mesdames et messieurs. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Gilles, bonsoir à toutes et à tous.
Eh bien, un sommaire plutôt bien rempli avec la traditionnelle revue de presse de l'April par Luc Fievé et Emmanuel Charpentier. Et puis, on parlera avec toi, Pascal, de tes tribulations strasbourgeoises.
Oui, alsaciennes. Et oui, avec l'organisation des rencontres mondiales du logiciel libre.
Qui bat son plein.
Oui, c'est l'effervescence, la mise en ligne. On verra tout ça tout à l'heure.
Et puis on parlera aussi un petit peu de Seven Libre, dont on avait déjà parlé dans une précédente divergence numérique, mais dont on reparlera, avant de parler de Golem. Ça se passe à Kawenga, c'est Thomas Tudou qui viendra nous en parler. Un logiciel pour téléphone portable qui, a priori, n'est pas un logiciel libre, mais qui est une œuvre d'art et qui pose la question de l'auto-évaluation de notre existence. C'est assez intéressant en ces temps d'effervescence autour d'Internet et puis de l'auto-tagage que font les gens sans trop le savoir dès qu'ils bloguent Facebook et autres tweets. Ce sera le sommaire de cette émission, sans oublier évidemment les agendas du libre.
Les agendas du libre et puis aussi notre film musical qui est en fait les dernières nouveautés que j'ai piochées sur dogmazic.net.
Et puis voilà, tout de suite on passe à la suite, ce sont les nouvelles du front.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 17. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, qu'est-ce qu'on a au sommaire aujourd'hui?
Pas mal de trucs. On a de l'Internet, marché public européen, brevet avec Google, brevet sans Google, le CNN.
CNN.
Et puis Adopi et de la propriété intellectuelle. En veux-tu, en voilà.
Alors, premier article, internetactu.net, comment étudier l'Internet quand l'Internet est partout, un article de Hubert Guillot. Donc, un article assez long, de fond, qui est en fait sur des problématiques de sociologie.
Et oui, tu dois adorer, hein, toi, sociologue dans l'âme comme tu es.
Dans l'âme non, de formation, et bon, bref, passons. Oui, l'article est très intéressant parce qu'en fait, il pointe le fait qu'on a aujourd'hui sur quelque chose qu'on va appeler Internet, une multitude d'objets qui fonctionnent de façon très différente, et que ça a plus grand sens d'appeler ça Internet, ou en tout cas de le considérer comme un objet unique.
Oui, il faut différencier, et il différencie pas mal. Il met en avant justement le fait que maintenant on va parler des réseaux sociaux, on va parler des mécanismes de transmission des informations, et il faut les séparer, il faut diviser et présenter de manière différente.
Voilà, mais du coup, alors c'est une approche très pragmatique, hein. C'est un article de chercheurs nord-américains. On sait qu'ils ont une approche des sciences humaines très très pragmatique, ce qui a beaucoup d'intérêt parce que ça évite de se noyer dans de la théorie fumeuse. En revanche, ça fait l'impasse sur un certain nombre, en tout cas dans l'article, qui mériterait une seconde lecture parce qu'il est quand même complet et assez riche et assez profond, mais qui fait l'impasse sur la dimension idéale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui disent Facebook c'est pas Internet, le réseau sur les téléphones portables c'est pas Internet non plus, parce qu'on respecte pas les règles du réseau et la façon dont ça fonctionne. Et donc voilà, donc ça c'est pas du tout abordé cet angle là, c'est ce côté idéal et qu'on peut avoir sur qu'est-ce que c'est Internet n'est pas abordé. Donc eux disent les technologies numériques, ce qu'on voudrait appeler Internet comme étant quelque chose qui libérerait, qui serait foncièrement ouvert, etc. C'est pas vrai, puisqu'il y a des choses qui ne le sont pas, mais on pourrait tout à fait inverser la problématique en disant si puisque ça n'est pas ouvert, ça n'est pas Internet.
Et oui. Donc, allez jeter un œil, c'est pas mal, sur internetactu.net, je crois que c'est la première fois qu'ils y sont dans la revue de presse. Donc, article suivant, alors eux, ils sont déjà passés pas mal de fois, c'est other.eu. Alors, European Union, Free Software Advocates, Want Procurement Rules Improved. Ah oui, tu adores mon anglais.
J'ai la larme à l'œil. C'est un article de Gijs Ilenius, un article sur la question de la réglementation des marchés publics, réglementation européenne, et qui est un appel donc des associations, dont notamment l'April qui est cité dans l'article, pour améliorer les règles des marchés publics, pour laisser plus de place et un meilleur accès aux logiciels libres.
Voire même pour les mettre en avant avant les logiciels privatifs ou logiciels propriétaires. Après tout, il n'y a pas de raison, on peut les utiliser en Europe comme partout ailleurs.
Everywhere. ZDNet.fr, brevet, Google réplique aux menaces juridiques contre WebM, un article de Christophe Auffray.
Donc là, moi, je suis enchanté, je vois ce qu'ils appellent un pool de brevets, une sorte de piscine de brevets, je ne sais pas comment tu dirais.
Je pensais que c'était en rapport avec les gallinacées, mais non.
Non, rien à voir, non, mais bon, ils ne font que répliquer au MPEG ELA, dans lequel il y avait Microsoft, Apple et d'autres, plein d'autres très gentils qui ont plein de brevets, et ces brevets couvraient les technologies de vidéo, et donc ils avaient commencé à chercher des poux pour, dans la tête de Google et de sa technologie nouvelle de vidéo, WebM, et ben là ils répliquent.
Voilà, on s'en souvient, c'était il y a quelques semaines, voire bon, quelques mois peut-être, notamment le MPEG ELA avait appelé... lancer un appel désespéré en disant « si vous avez des brevets qui peuvent faire chier Google, allez-y, on vous aime ». Et donc bah là, Google est en train d'organiser son propre pool de brevets et en passant des accords pour qu'il n'y ait plus de risque à se faire couper les pattes à cause de propriété intellectuelle sur les brevets. Donc on a constitution comme ça de deux grosses entités de plus en plus lourdes. Donc côté Google, il y a AMD, Cisco, LG, Samsung et Texas Instruments qui sont déjà partenaires. C'est plutôt bon signe parce que ça donne l'impression que ces brevets finalement sont en train de devenir de moins en moins importants. Bon, il y a une sorte de... voilà, ça va devenir de plus en plus gros quand ils auront fini de se regarder face à face. Le premier qui bronche a perdu, hein, de jouer... Tu me tiens par la barbichette, peut-être qu'ils lâcheront les brevets en se disant que finalement ça sert à rien.
Oui, je pense qu'ils constituent des gros groupes, des espèces de blocs, et chaque bloc possède son pool de brevets, ils les font du cross-licensing, et effectivement, si tu veux pas m'embêter, si tu viens m'embêter moi, tu vas embêter les autres, donc viens pas m'embêter, sinon je vais t'embêter toi aussi. C'est peut-être une bonne manière d'annuler les brevets logiciels, qui sont une saloperie, comme on le dit plein de fois ici.
Ouais, bon, il y aura un moyen plus court, hein, c'est de les annuler directement, ça éviterait qu'on ait deux univers où il faudrait choisir entre les brevets Google ou les brevets Microsoft, Apple. Alors, article suivant, article de direction informatique, histoire de brevets, parallèle, Nortel, Novel, donc un article de Nelson Dumais.
Toujours des brevets, il se trouve que c'est un autre article qui était assez intéressant, qui reprend de l'historique, qui redescend dans qu'est-ce qui s'est passé sur Nortel, Novel, donc des boîtes qui sont en train de mourir, hein, et qui ont tout un portefeuille de brevets qui en intéresse d'autres. Alors l'article les nomme ces autres des vautours. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément la façon de le voir, ou en tout cas c'est pas comme ça qu'eux vont le présenter. Et il me semble qu'il y avait notamment Google dans le lot qui était intéressé pour les récupérer de manière défensive.
Oui, on l'avait cité aussi ces dernières semaines. Alors bon, l'article a un certain humour et un peu de second degré dans la façon de prononcer tout ça. Donc c'est un article canadien, donc ce qui est important. Il y a une chose que moi je retiens qui est assez... bon, finalement qui tombe sous le sens et qui paraît évidente, mais pas tant que ça. C'est de dire que notamment Nortel, qui est une boîte canadienne, donc il y a toute une série de brevets, le journaliste, parce que c'est un journaliste spécialiste du sujet depuis 20 ans, fait remarquer que ces brevets ont été largement financés par le peuple canadien au travers de différentes subventions, de réductions d'impôts, etc. Et que lui, il ne voit pas pourquoi ces brevets ne reviendraient pas, par exemple, aux universités canadiennes qui pourraient les faire fructifier pour financer la recherche et l'enseignement au Canada. Ça paraît tomber et être frappé au coin du bon sens.
Et oui, mais bon, là, je pense que ça ne va pas être le cas, simplement parce qu'il y a d'autres entreprises et d'autres États qui se sont mis là-dessus. Je ne sais même pas si les brevets logiciels sont vraiment légaux au Canada. En tout cas, ils le sont aux États-Unis, et c'est ce dont on parle le plus ici, parce que c'est eux qui impactent le reste de la planète, hein, et pas tant de trucs à dur. Donc là, il me semble que c'est 6000 brevets qui sont couverts par tous ces accords, hein, donc rien que le nombre est impressionnant. Probablement qu'il y en a là, au moins la moitié qui ne servent à rien, mais c'est pas grave, l'important c'est le nombre, l'important c'est de montrer qu'on en a.
Voilà, c'est ce que dit l'auteur. Alors, les brevets logiciels sont tout à fait valables au Canada, qui vont... comment dire, fonctionne un peu dans l'orbite des États-Unis. On se souvient que Microsoft, il y a 2 ans, avait été interdit de vente de la nouvelle version de Word aux États-Unis suite à l'attaque d'un patent de troll. Donc c'est ces boîtes de juristes qui rachètent des brevets ou les déposent juste pour faire des attaques après ça devant les tribunaux. Et c'était une boîte canadienne qui les avait mis dedans. Donc ça marche très bien au Canada.
Alors il y a eu d'autres articles sur le sujet qui faisaient remarquer que grâce à cela, en fait, on s'aperçoit que les États-Unis, les institutions des États-Unis, mettent vraiment en avant le logiciel libre. Ils ne veulent pas faire du mal au logiciel libre par l'intermédiaire de ce brevet, qui pourrait quasiment détruire l'écologie de toute cette informatique, de toutes les entreprises qui sont derrière, et donc ils protègent, et là c'est une reconnaissance, c'est quelque chose d'assez fort.
Donc voilà, c'est un second point qui laisserait penser que les brevets logiciels commencent à arriver à court. On se rend compte que c'est plutôt finalement négatif. Bon voilà, et pendant ce temps-là, en Europe, on continue à essayer de... Il y a des forces qui essayent de les rendre toujours légaux, donc bon voilà, finir peut-être par être un combat d'arrière-garde, ce qui serait pas mal. Alors, article suivant, le Mag IT. Nicolas Sarkozy installe officiellement le Conseil National du Numérique. Donc, article de Cyril Chausson. Le CNN, et non pas CNN, ça n'a rien à voir avec la chaîne d'information américaine. Le Conseil National du Numérique, donc c'est une institution qui a pris la suite, en quelque sorte, du Forum des droits sur l'Internet. Et c'est quand même moins bien.
Et oui, hein, c'est un beau machin qui est en train de se monter. On voit bien, c'est les élections dans un an. Et ils sont en train d'essayer de rattraper tout ce qu'ils ont fait de mal par rapport à la sphère Internet et de montrer, regardez, on essaie de faire des trucs gentils, jolis, mignons. Et on n'aurait pas fait les lois de la Hadopi de la même manière si on avait eu le CNN à l'époque. Ça, c'est notre cher président qui l'a expliqué. Bon, un petit peu plus tard, il a dit non, mais on est vraiment derrière Hadopi. Hein, craignez rien, on va pas changer la loi comme ça, mais on l'aurait pas fait. On n'aurait pas fait les mêmes erreurs. Donc là, ils ont monté tout un système, ils ont je crois que c'est 18 personnes qui sont dedans, qui ne font partie que de la sphère économique, et bien là, ils mettent vraiment en avant ça, c'est qu'ils ne sont vraiment intéressés que par les pépettes. Le côté droit d'auteur, le côté des utilisateurs, c'est pas important, et soi-disant, ils ont d'autres endroits où aller s'exprimer. Et donc le CNN va essayer de récupérer, quelques chefs d'entreprise, tous les fournisseurs d'accès, Bouygues, SFR, Free, avec Xavier Niel. Et à mon avis, c'est peut-être un moyen de leur faire boucler, quoi.
Alors bon, c'est probablement juste un coup politique. Tout ce qui est numérique et Internet, le gouvernement actuel en a pris plein les dents. Parce qu'ils ont fait des séries de faux pas, alors avec Hadopi d'une part, mais également voilà, avec leur communication, etc. C'était terrible. Alors ce qu'on retient, c'est que dans le discours qu'avait présenté le CNN, il était dit que le gouvernement, à chaque fois qu'une loi sur le sujet allait arriver, il devait consulter le CNN. Dans le décret qui le met en place, c'est il peut consulter le CNN. Donc a priori, c'est juste pour faire joli et pour dire qu'on a fait un truc, quoi.
L'article fait mention, j'aime beaucoup l'expression, c'est une diversion et du bling bling. My name
is bling bling. Voilà, donc deux citations, une de l'April et une autre de la Fédération des syndicats, des personnels, des opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès. Alors article suivant, donc PC Impact, Hadopi, analyse collégiale des spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation. Donc un article de Neil Sagnas. Alors c'est pas vraiment lui qui l'a écrit. En tout cas, c'est une analyse de la seconde version des spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation de l'Hadopi. Donc analyse très longue et très complète et très pertinente par 4 ou 5 blogueurs éminents qui connaissent très bien sur le sujet, qui ont fait un gros boulot. Donc c'est très complet.
Et oui, je crois que, alors là je suis en train de regarder l'article, je l'ai sous les yeux, ils sont passés sur quelques 76 pages, et sur ces 76 pages, ils ont retiré quelques articles et quelques analyses au cas par cas. Donc moi ce que j'en remarque, c'est que l'Adobe, tel que c'est écrit, enfin, telles que ces spécifications sont mises en place, ça n'a pas l'air d'être vraiment très sérieux. Il y a des phrases qui ont changé de sens entre le début et la fin. Quand elles sont réutilisées, c'est plus dans le même contexte, ça ne veut plus dire la même chose. Et qu'en gros, probablement, il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé sur les spécifications fonctionnelles. Ce n'était pas la même équipe au départ, c'était qu'à la fin. Et les sens des choses ont bougé pas mal. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire derrière ça pour obtenir un produit? A priori, et d'après les auteurs de cette analyse, pas grand-chose.
Oui, c'est un peu leur conclusion. Donc, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à lire. Si vous voulez rentrer dans le fond des choses, c'est une lecture intéressante. À la fin de l'article, il y a quand même une synthèse par chacun des blogueurs. Donc, on peut se contenter de lire ça si on ne veut pas tout lire et qu'on n'a pas le temps. Et voilà, ils disent qu'en gros, ça va être une super usine à gaz. Mais enfin bon, ça, c'est la marque de fabrique d'Hadopi.
Alors moi, ce que j'en remarque et ce qui me fait un petit peu peur, c'est ces logiciels qui sont supposés être un petit peu tout, hein, des logiciels espions plus que de sécurisation. Ils sont vendus comme de la sécurisation, mais c'est pas vraiment le cas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils nous les installent chez les fournisseurs d'accès. Et surtout, plus que de nous les installer sur nos PC, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils nous les installent dans les boîtes de télécommunications, nos Freebox, SFR Box, Novbox et toutes ces boxes-là. Et parce que là, bah, ça appartient soi-disant aux fournisseurs d'accès. Et donc, eh bien, par l'intermédiaire de l'entreprise, ils peuvent essayer d'installer n'importe quoi et des choses qui nous contrôlent sans que nous, même les hackers, même les gens qui contrôlent leur système d'exploitation, aient vraiment la possibilité de manipuler tout ça.
Sauf peut-être chez SFR, où on peut modifier le code de sa box. Alors, article suivant, silicone.fr, journée de la propriété intellectuelle, l'April monte au créneau, donc par David Feuget.
Et oui, vive la propriété intellectuelle, je crois que c'est aujourd'hui, là on est le 4 mai, hein, donc au niveau de l'enregistrement, et là il prépare la chose, et notre association se défend d'apprécier ce concept. La propriété intellectuelle, ça ne veut rien dire, on ne possède pas l'intelligence, et c'est même une insulte que d'utiliser ce terme-là, et en tout cas bah, c'est tout à fait le thème, et il faut faire la distinction entre propriété matérielle, propriété soi-disant intellectuel, les deux ne couvrent pas les mêmes choses.
Alors voilà, donc il y a des éléments qui... une sorte d'exemple pour illustrer ça, c'est une chaise peut bénéficier qu'à une seule personne à la fois, alors qu'un logiciel peut bénéficier à plein d'autres personnes. Une horloge peut appartenir qu'à une seule personne, mais l'information qu'elle donne, elle peut bénéficier à plein de monde. Donc c'est un peu pour montrer l'absurdité de l'idée de la propriété intellectuelle. Alors tu citais le 4 mai, c'est aujourd'hui, et c'est la journée contre les DRM. Voilà, la journée de la propriété intellectuelle, c'était le 26 avril.
Eh oui. Bon, bah, on refera l'article sur la journée anti-DRM la semaine prochaine.
Voilà, et tu auras une fessée pour ton erreur.
Bon, eh bien, à la semaine prochaine, justement.
Oui, à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine, pour savoir s'il aura eu sa fessée ou s'il n'aura pas eu sa fessée.
En tout cas, je vais aller lui
donner. Oui, bon, bah alors, attendez, si la revue de presse de l'April vire sadomasochiste, où allons-nous ?
En tout cas, je vais avoir l'occasion de les voir la semaine prochaine et ce sera très bien.
Voilà. À suivre aussi prochainement une intervention régulière de la Quadrature du Net dans Divergence Numérique. Le temps que nous mettions tout cela en place.
Tout à fait, oui. Puis c'est lors de mon passage au Quadrapéro dont on parlait la semaine dernière que donc j'ai pu voir les artistes de la Quadrature du Net et justement leur évoquer que ils sont bienvenus sur nos ondes et que pour leur actualité permanente, ils peuvent évidemment s'exprimer. Donc on va avoir une petite chronique comme ça régulière.
Voilà, avec un meilleur son que par téléphone, tout de même. On se repose de ce quart d'heure d'informations condensées avec un petit peu de musique qui nous ramène dans la vieille maison.
Oui, alors j'ai pioché ça dans dogmasic.net. Évidemment, faites monter le compteur pour arriver aux 2 millions de téléchargements légal. C'est une nouveauté, j'allais dire, de la semaine. C'est Tonight We Fly, nous volons ce soir, et le titre c'est Back to the Old House, et c'est en Creative Commons by tout simplement.
On the streets, he feels so alone in a crowded house. Do you see this man walking on the streets? There is a light which never goes out. Sometimes I dream, sometimes I scream. Sometimes I dream I'm back to the old house. Sometimes I dream things but never change. Sometimes I dream good times remain. This fairy tale body not change. Everybody. Those time. Time's a dream. Sometimes a dream. Time's a dream. Sometimes a dream. I'm back to the old house. But now the doors are closed. Don't look back. But now these days I'm gone. Don't be scared. And you won't return to the old house. You've got so many memories, only memories. Sometimes I dream, sometimes I dream. Sometimes I dream, I'm back. These memories fly away and disappear. Other people living in your house. Other people sleeping in your house. There is a light which never goes out. Sometimes I dream, sometimes. Sometimes I dream back to the old.
Old House par le groupe Tonight We Fly, ils sont de Lille et c'était en Creative Commons by 2.0.
Une nouveauté, un dépôt tout récent sur la plateforme dogmasic.net qui, rappelons-le, court après son 2 millionième téléchargement légal de musique en libre diffusion. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur dogmasic.net.
Et oui.
Il n'aura échappé à personne que le député Patrick Roy nous a quittés malgré un récent retour à l'Assemblée, fort remarqué. Et puis comme c'est quelqu'un qui a beaucoup défendu le libre, l'internet, le vrai, et beaucoup combattu notre précédente ministre en charge de ces questions-là. Un petit hommage, Pascal, que tu as chopé quelque part sur la toile, imagine-je.
Oui, tout à fait, puisque c'est une déclaration à l'Assemblée nationale lors évidemment de Hadopi 1. Patrick Roy, député PS du Nord, donc à l'âge de 53 ans, nous a quittés. Était défenseur très très fort de la musique métal. Il se plaint qu'on n'en passe pas assez dans les médias ou sur le service public. Donc il avait rendez-vous par exemple avec le PDG de France Télévisions pour savoir si un créneau sur le métal pouvait être possible. En tout cas, il était instituteur, né à Denain dans le Nord le 30 août 1957, militant politique et syndicaliste, élu député en 2002. Et c'est évidemment avec ses fameuses vestes de couleur qu'il était fortement remarqué à l'Assemblée nationale. Et sur ses discours, évidemment, assez décalés par rapport à l'Assemblée. Et c'est un petit extrait, justement, de son intervention à l'Assemblée nationale concernant donc l'Hadopi 1.
Le mois dernier, je vous ai présenté un magazine qui traite de musique métal, le magazine Rock Hard. J'ai le nouveau numéro sous les yeux. Vous l'avez lu, j'imagine, avec Iron Maiden en couverture. Eh bien, pour vous dire que cette musique métal, elle existe aujourd'hui essentiellement grâce à Internet. Elle n'existe pas grâce à vous, parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas les aider, alors qu'aujourd'hui, ces musiciens sont parmi les plus créatifs de la sphère musicale en France et dans le monde. Vous ne les aidez pas pour trouver des concerts, vous ne les aidez pas pour trouver des salles de répétition. J'aimerais d'ailleurs un jour que vous m'en parliez. Mais plus grave, Madame la Ministre, c'est que, alors que vous en auriez les moyens, vous ne les aidez pas non plus pour qu'ils soient diffusés dans les médias, radio ou télévision. Vous me direz, quand vous répondrez, sur quels médias on peut écouter aujourd'hui les artistes métal. Il en existe un, quand même, sur lequel, d'ailleurs, vous ne faites pas grand-chose. Au contraire, vous voulez museler, cisailler. C'est évidemment Internet. Eh oui, aujourd'hui, Internet permet à tous ces groupes, mais je pourrais prendre l'exemple sur d'autres types de musique, permet à tous ces groupes d'exister et d'avoir une vraie scène. D'avoir une vraie scène. Et c'est ce moyen d'accès que vous voulez aujourd'hui museler, contrôler, censurer, pour qu'ils ne puissent pas exister. Pourtant, Madame la Ministre, grâce à Internet, savez-vous que dans quelques jours, je crois même que c'est demain, le principal groupe de métal français, Gojira, va partir en tournée américaine. C'est le premier groupe de rock français depuis 50 ans, le premier groupe qui va faire une tournée américaine en tête d'affiche devant un public américain et non pas un public français vivant aux USA. Tout ça grâce à Internet et pas grâce à vous, même si on aspire à que, dans un remords, vous veniez les aider. Et alors, aujourd'hui, tous ces groupes qui existent, et sans lequel la musique ne pourrait pas évoluer, eh bien, veulent voir continuer à vivre et veulent voir continuer à exister sur Internet. Je pense à des groupes comme Opeth, comme Adagio, comme Démience ou Déviance, comme Anger, comme Apocalyptica, ou encore, je l'ai nommé, Gojira. Bien. J'entends à droite, merci. Je n'ai rien compris. Forcément, vous n'écoutez pas de la bonne musique, vous merci, n'écoutez pas Roy. Internet. C'est bien dommage. Ça prouve bien que vous ne connaissez merci, pas le sujet.
Et voilà, Patrick Roy dans ses œuvres, qui était aussi connu pour chaque fois rajouter un petit quolibet quand on annonçait Madame la ministre de Travail et de l'Emploi et du Chômage, etc. Donc voilà, il nous a quittés, bien paix à son âme, un des rares députés qui avait quand même encore quelque chose d'autre que des gros chèques sonnant et trébuchant entre les oreilles, mais ne nous égarons pas. Et
il a même partagé la scène avec le groupe de métal Mass Hysterica.
Hysteria,
pardon, avec pour interpréter un titre avec eux, guitare électrique à la main, évidemment.
Alors, avant de parler de Golem, on refait un petit tour pour présenter l'association Cévennes Libres, une association loi 1901 qu'on avait déjà reçue il y a quelques mois de ça, me semble-t-il, et qui développe un programme de réemploi des déchets informatiques.
Oui, tout à fait, puisque l'association redistribue du matériel informatique à bas coût pour les écoles, les CCAS, les associations, les demandeurs d'emploi, les étudiants.
À bas coût, ça veut dire à prix modique et non pas à bas coût, la ville du même nom. Une action qui se fait dans une démarche de développement durable et d'économie sociale. Et puis on peut évidemment contacter Cévennes Libres si on est dans ce cadran, on va dire, du département.
Oui, alors ils sont présents au Vigan et ils sont présents aussi une fois par semaine à l'université de Montpellier 3, donc, où on peut trouver des machines à prix très réduit ou qui sont de bonnes machines, hein, puisque j'ai regardé les caractéristiques. C'est des machines recyclées, ils y mettent du logiciel libre dessus, puisque comme ça, on a des logiciels en plus, on a les systèmes d'exploitation, c'est fonctionnel, et puis donc c'est pour tout le monde qui peut donc accéder comme ça à l'outil informatique avec un moyen qui est moindre, quoi, un coût modique.
C'est vrai que par les temps qui courent, beaucoup de gens renouvellent leur matériel bien avant que celui-ci ne devienne obsolète, histoire d'avoir le dernier chipset graphique à la mode qui écrase tout le monde et dont on se fout éperdument. Et donc, voilà, on ne saurait trop vous encourager à éventuellement aller faire un tour sur cévennes-libres-au-pluriel.net ou sur ordi-solidaire.fr.
Voilà, toutes les coordonnées sont là-dedans. On les aura sans doute dans une divergence numérique également.
Prochainement. À présent, on va vous dire « see you », non pas pour dire au revoir, mais pour annoncer le prochain titre.
Oui, toujours « Tonight We Fly », un groupe lillois qui nous propose sa musique en licence Creative Commons by 2.0. Et oui, c'est fini mon garçon, la pause musicale, mais nous discutions hors micro et aussi vous n'avez rien compris à ce que nous n'avons pas dit à l'antenne. Du 2 au 13 mai ainsi que du 6 au 10 juin a lieu une résidence de création de Thomas Tudou à l'espace Kawenga à Montpellier, non loin de nos studios, autour du logiciel Golem qui s'articule autour de cette phrase « Pour me garantir de la pertinence de mon existence, j'ai décidé de créer un logiciel à travers lequel j'évalue
vu mon quotidien. On a souvent parlé dans Divergence Numérique du fait que les gens, sans s'en rendre compte depuis la soi-disant révolution des réseaux sociaux, etc., finissent par se mettre à taguer leur propre existence sans trop parfois s'en rendre compte, même si leurs photos de vacances se retrouvent en 4x3. De toute façon, ça appartient à Facebook puisque tu l'as déposé dessus. Ah bon, je savais pas. Il y a comme ça une.
T'as coché la case.
J'ai lu les conditions générales d'utilisation.
Les 40 pages de.
Voilà, on se souvient que en 2009, le gouvernement du Québec avait la Cour suprême même du Canada avait enjoint à Facebook de rayer la clause selon laquelle les contenus leur appartenaient. Je pense pas que ce soit toujours le cas en France, mais c'est assez intéressant en notant en ces temps comme ça d'hyperactivité qui est le sujet d'étude principal de Thomas Tudoux et puis de cette mise en réseau, de ce croisement, de cette espèce de database mondiale à laquelle tout le monde participe consciemment, inconsciemment ou sans le vouloir ou en le voulant. Donc c'est un logiciel pour téléphone portable, ce n'est pas a priori un logiciel libre puisque c'est une œuvre d'art et c'est une des particularités puisqu'on parle bien d'une résidence artistique et non pas on va dire d'une hack week ou d'un truc comme ça. D'abord on va saluer Thomas Tudoux qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis David Lavaïs qui l'accompagne de Kawenga. Salut David.
Salut.
Donc peut-être pour présenter un petit peu, aujourd'hui il y avait justement une présentation de ton travail plus globalement, au-delà du projet Golem, il y a un truc qui te présente bien et qui résume bien un petit peu peut-être une partie de ta personnalité, c'est le fait que tu as souligné le fait que tu as été évalué comme tout le monde pendant ton parcours scolaire et que une fois l'école étant finie, ce manque d'évaluation pouvait te gêner quelque part, tu étais en manque. Alors peut-être que tu aurais dû choisir une carrière de fonctionnaire qui t'aurait permis d'être dans un processus constant d'évaluation, mais malgré tout tu as choisi la pire des professions pour se faire évaluer par les autres, c'est-à-dire celle où on est un peu tout seul, où on est à la fois chercheur, artiste, plasticien, concepteur, que sais-je. Certes le public après te renvoie une évaluation, mais parmi les travaux que tu as présentés, il y a trois paperboards sur lesquels, un peu comme dans un gros tableau en caractère ASCII, on voit se détacher des personnages symbolisant la vitesse, Sonic, Flash ou Bip Bip. Quand on regarde de plus près, en fait, c'est des tableurs avec tous tes résultats scolaires depuis pendant toute ta scolarité. De là à dire que tu es un maniaque ou un obsessionnel, peut-être que tu pourras nous répondre en partie. Mais justement, ça illustre bien finalement nos sociétés où dans lesquelles, si on n'est pas hyper compétitif, on est considéré comme la dernière roue du carrosse. Et si on ne rend pas des comptes sur ce qu'on fait tous les jours, on est un petit peu pas dans le move. Est-ce que c'est justement cette préoccupation de la société dont on fait tous partie mais qu'on peut aussi tous critiquer, qui t'a poussé faire ce projet Golem pour lequel tu collabores avec un informaticien vrai pur et dur qui code ce logiciel qu'on aura l'occasion de découvrir justement lors des présentations qui ont lieu à Kawenga ces jours-ci et au début du mois de juin.
Oui, moi c'est vraiment comme un recul, on va dire, à la fois critique sur la société, mais en même temps, tout en affirmant le fait que donc, je fais partie de cette société et que je la critique du dedans. Et c'est d'où le fait que dans mon travail, je parle de double jeu, c'est que. Une part de fascination quand tu évoquais mon côté psychorigide, on va dire. et en même temps, un côté critique de ma pratique, mais. Pour moi, si j'étais uniquement dans le côté critique, on se retrouverait plus du tout dans le domaine de l'artistique, on serait dans du militantisme pur, et le travail perdrait toute sa dimension réflexive, voire émotionnelle, en plus du travail. Ça deviendrait juste un pamphlet contre l'évaluation, l'utilitarisme ambiant.
Même si à l'arrivée, c'est peut-être ça que ça démontre, puisque toi, portant ce projet, ayant toi-même utilisé ce logiciel pour l'expérimenter, tu nous as dit que finalement, quand on l'utilise, ça prend 30% de son temps, ce qui est paraît complètement énorme et considérable. Pour ceux qui ont des enfants, c'est carrément inimaginable. Donc, y a quand même quelque part les gens qui vont rentrer dans le jeu, qui vont, dès qu'il sera très prochainement téléchargeable gratuitement pour l'utiliser, quelque part, les gens ils vont se prêter à une espèce d'auto-expérimentation limite masochiste.
Oui, mais déjà tout d'abord, c'est uniquement présenté dans un cadre artistique, ce qui permet de dire qu'il y a un hic et que du coup il y a quand même une réflexion à avoir et que c'est pas, excuse-moi, c'est pas Facebook que les gens peuvent utiliser sans prendre du recul a priori. Et voilà.
Et donc, justement, comment s'est passée, on va dire, la naissance du projet dans ta tête et puis la rencontre avec le maître d'œuvre qui opère sur le codage du logiciel lui-même.
Moi, en fait, je travaille vraiment de manière pragmatique, c'est-à-dire mon travail part vraiment de forme plastique. Faut avouer que Golem, au début, c'était un roman qui s'est devenu une installation, puis un jeu vidéo, avant de devenir un logiciel pour téléphone portable. Mm-hmm. Donc ça a vraiment pris plein de formes diverses et variées, et en regardant des anciens travaux, on voit des prémices de Golem dans d'autres choses qui prennent des formes complètement différentes, en sachant que c'est le seul projet, enfin un des, il y en a un qui va bientôt arriver, mais pour l'instant c'est le seul projet que j'ai fait qui est vraiment multimédia. Ma rencontre avec l'ingénieur s'est faite de manière, on va dire, j'ai fait un recrutement bénévole par ami d'amis, mais on se connaissait pas du tout en amont et on a vraiment une relation uniquement de travail sur, enfin on s'entend très bien, hein, mais on a uniquement une relation professionnelle autour du projet, quoi.
Alors, ce logiciel, il permet d'évaluer des trucs comme, je sais pas, la façon dont on monte les escaliers, l'ai-je bien monté, l'ai-je bien descendu, la façon dont on fait finalement tout ce qu'on fait, et on se note soi-même, ce qui pose finalement plein de questions, la question de l'honnêteté intellectuelle qu'on a vis-à-vis de l'auto-évaluation, et ça aussi, c'est un des critères. Alors, il y a, je crois, une quarantaine d'actions qui sont...
42.
Voilà, qui sont... 42, c'est pas une sens, un bon chiffre, tous les geeks auront compris, et puis y compris, j'imagine, comment on plie sa serviette du coup.
Alors ça va pas jusqu'à comment on plie sa serviette, mais effectivement j'ai essayé en fait de, après je me suis vraiment, comme tu l'as dit au début, j'ai vraiment basé pour ma propre utilisation Golem, donc du coup je me suis basé sur ma vie, qu'est-ce que je faisais dans mes journées, et du coup j'ai vraiment découpé ça pour que ça soit le plus large possible, que ça puisse réellement recouper toute l'existence, mais vraiment en la découpant en petits morceaux. Donc c'est vraiment marcher, monter les escaliers, prendre une douche, uriner, déjeuner, tout est vraiment basé sur des micro-coupures, quoi.
Et quelque part ça pose justement plein de questions d'un ordre social, sociologique, on va dire.
Oui, donc certains m'ont déjà en fait m'ont posé la question en quoi mon travail, comme souvent je me positionne en tant que chercheur, en quoi mon travail est une recherche artistique et pas une expérience sociologique qu'on pourrait mener sur des gens en leur donnant un logiciel test et voir si les gens sont assez bêtes pour se faire avoir par ce qu'on leur propose, quoi. Mais pour moi pas du tout, parce que déjà donc même si je me pose en tant que chercheur, ce que je fais c'est pas des écrits, c'est pas la théorie, c'est des œuvres d'art, donc ça d'une part c'est une première réponse à la question, et en second lieu moi je mêle vraiment l'expérience aussi bien intellectuelle que l'expérience humaine dedans. Donc pour moi il y a vraiment un tout qui fait que ça reste dans le champ du domaine artistique, le fait que ce soit un logiciel à valeur symbolique, et que moi j'avoue qu'après le résultat, enfin du coup Golem, je donne une possibilité d'utilisation, et c'est d'ailleurs cette possibilité d'utilisation fictionnelle qui m'intéresse, mais je vais pas regarder les résultats après, en fait, enfin si, mais je vais pas, c'est pas ça pour moi mon travail, quoi.
Alors il y a tout un contexte que tu as présenté qui est à la fois, on va dire, historique, presque philosophique. Pourquoi avoir choisi ce nom-là, autour justement de la signification qu'il peut avoir dans les champs historiques et puis évidemment religieux. Et puis le fait que tu insistais sur le fait que finalement on vit dans une époque où la valorisation de l'activité qu'on a, de l'emploi qu'on occupe, pu insister sur le mot emploi plutôt que travail, finalement, la seule valorisation qu'on en a aujourd'hui, c'est un petit peu la question financière, c'est-à-dire encore la question des chiffres, et non pas la valeur intrinsèque du travail. En dénonçant un petit peu le côté, il y a plus d'éthique dans le travail qu'on attend des gens. On attend simplement qu'ils soient productifs et qu'ils fassent tomber des pépettes en quelque sorte, quoi.
Oui, c'est vraiment aussi bien. Donc, je différencie on va dire l'activité de l'emploi. Et finalement, Golem fait l'amalgame. En gros, Golem, je me suis quand même aussi inspiré, on va dire, du management et de la manière dont des règles venant du monde de l'entreprise peuvent coloniser notre manière de vivre. Mmh. Et finalement, Golem est dans l'intensification du moindre geste et dans une manière complètement utilitariste. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut rentabiliser chacune de nos actions en vue de quoi
avoir
une note là pour le coup, mais du coup une note pourquoi, enfin c'est ça en fait, où parce que du coup dans l'entreprise la note c'est finalement in fine le but c'est d'avoir de l'argent après tout, alors que là justement c'est là où Golem est symbolique, c'est que du coup il reprend tout ça mais qui finalement il s'en serait nous mettre une note, j'ai eu 17/20, j'ai réussi ma vie, je peux mourir tranquille, enfin c'est là où après il y a des croisements pas très sains qui se font, quoi, mais qui sont les croisements qu'on vit réellement aujourd'hui avec cette prédominance de l'économique et du management sur la manière de penser.
Mmh. Alors pour saisir un petit peu le détail, comment, quoi, etc., il y a une espèce de double rendez-vous là, du 2 au 13 mai et puis un petit peu plus tard du 6 au 10 juin qui vont permettre aux gens de rencontrer, de vous rencontrer. Je crois que justement le technicien du logiciel sera présent un petit peu plus tard, non ?
Non,
pas du tout.
Non, il sera non,
pas...
non, par contre, oui.
Tant pis pour les geeks.
Il n'a pas souhaité être présent ici.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer là du 2 au 13 mai ? Et puis, peut-être David a l'agenda en tête et tous les détails.
Ce soir, là, il y avait la présentation de la démarche générale artistique de Thomas. Et la semaine prochaine, jeudi 12 mai, donc à 19h, il y a une rencontre avec Hervé Lecronier, qui est un chercheur à l'université de Caen. Voilà, et qui permettra de développer un axe plus théorique de ce projet Golem.
Voilà, il enseigne les technologies de l'Internet et de la culture numérique. Et son domaine de recherche, on va dire, c'est l'impact de l'Internet sur l'organisation sociale et culturelle, l'extension du domaine des biens communs de la connaissance. Là, on sera un petit peu quand même sur le côté un petit peu libre, parce que le partage de la connaissance, etc., c'est un petit peu le cheval de bataille aussi des libristes versus les lois, etc. Et puis, il y aura un atelier donc début juin sur l'utilisation de ce logiciel qui peut, on l'évoquait un petit peu en rigolant, mais si on est en train de noter sa façon de parcourir les 200 mètres qui nous séparent de notre prochaine étape, et que parce qu'on a les yeux rivés sur le logiciel, on tombe dans une bouche d'égout, ça pose plein de questions sur l'interaction. Y a-t-il plus d'accidents de piétons depuis que les gens tweetent sur leur smartphone ou etc. Il y aurait pas mal d'études à faire là-dessus.
Oui. Mais ça, c'est un atelier qui sera proposé le mardi 7 et mercredi 8 juin, qui est sur inscription. Il suffit d'écrire à mediation@kawenga.org. Et la même semaine, le vendredi 10 juin, il y aura le vernissage de l'exposition où tout le monde sera amené à pouvoir expérimenter Golem à Kawenga. Ce sera pendant une semaine, du 10 au 17 juin.
Et l'exposition, c'est simplement installer le logiciel ou il y a
d'autres choses, parce que d'autres choses. Il y a tout un contexte. Ça présente ma propre utilisation. On peut le tester, le logiciel. Enfin, ça, c'est vraiment la manière optimale de présenter le logiciel, en sachant que de toute façon après à partir de l'ouverture de l'exposition, l'exposition est plutôt une manière d'inaugurer, on va dire, le site internet Golem qui finalise complètement l'œuvre. Mm-hmm. Et du coup ensuite le logiciel sera téléchargeable gratuitement et le site sera visitable par tout le monde pour pouvoir voir l'œuvre chacun chez soi de son ordinateur.
Voilà. Et puis, alors, évidemment, j'en ai profité pour poser la question piège de sous quelle licence était développé le logiciel, question à laquelle tu n'as pas trop su répondre, mais ça peut se comprendre, puisque au départ, c'est pas un logiciel qui a vocation à être utilisé comme tel, mais plutôt à être une curiosité logicielle à tester, utiliser, etc. Nonobstant, les gens vont y déposer des données qui concernent, qui vont les tracer eux-mêmes, et peut-être que, effectivement, le fait de savoir que c'est une licence ouverte pourrait les rassurer pour se dire bah voilà, ces données ne vont pas nécessairement être communiquées à mon insu vers des agences de marketing, de sondages ou de trucs vachement utiles et non, pas du tout, mais bon, en tout cas qui sont très à la mode et qui facturent leurs prestations à des tarifs défiant les lois de la gravité.
Bah après, j'avoue que les gens qui utiliseront Golem et qui enverront leurs résultats sur Internet, juste Internet sera consultable par tout le monde et ne demande pas le login pour être regardé. Donc n'importe qui, même des gens malveillants, pourront récupérer les résultats s'ils le souhaitent, puisque le site est ouvert et ne demande pas de password. Après, j'avoue qu'avant que tu me poses la question, c'était une question que je ne m'étais pas posée plus en avant. Parce que comme je l'ai évoqué,
c'est une démarche.
Je ne suis pas un spécialiste de la culture multimédia, même si moi, c'est des points précis qui m'intéressent sur le rapport aux chiffres qu'elle permet et la quantification et la rationalisation. Mais c'est vrai que c'est des détails techniques que du coup, je vais développer. Ici pour le coup, puisque du coup Kawenga étant spécialisé dans ce type de questionnement me permet aussi d'aller plus loin là-dedans et c'est aussi une ouverture pour moi d'être en résidence ici à ce niveau-là.
Thomas Tudou, on va te remercier d'être venu dans Divergence Numérique. Et puis, on rappelle que c'est sur www.kawenga.org qu'on retrouve tous les liens, y compris vers ton site perso, où on peut découvrir les multiples facettes de tes travaux, passés, présents, peut-être futurs. Et puis, David, à bientôt pour les nouvelles de Kawenga. Peut-être un rendez-vous, un truc à dire là.
Ah ben justement, cette semaine-là, ce samedi, il y a une formation, un samedi numérique qui est proposé sur le montage vidéo libre sur les logiciels Linux, Ubuntu, enfin non, sur système d'exploitation Ubuntu. Et il reste quelques places disponibles, donc les personnes qui veulent s'inscrire pour savoir tout faire en vidéo, disons, avec des logiciels libres, il ne faut pas hésiter à contacter Kawenga avant samedi.
Avant samedi, les amis, donc ne ratez pas le coche. Merci Pascal, tu n'as rien dit pendant toute cette interview, mais tu n'étais pas là à la présentation, alors...
Pas être partout non plus, du moins que ça reste anonyme, les résultats, moi ça me va.
Voilà.
voilà. Après, si on sait qui...
Si votre fournisseur d'accès communique votre adresse IP, il y a des gens mal intentionnés, mais bon, bref, ne nous égarons pas. On va écouter un nouvel extrait, décidément c'est l'artiste de la soirée presque, Tonight We Fly.
Oui, tout à fait. Un Lillois avec When I Am Waiting For en Creative Commons by 2.0, tout simplement.
Want to be your lover.
want to be yours, want to be part of your dream.
Une que j'attends, What I'm Waiting For, et puis la prochaine pause musicale, eh bien, ce sera un autre artiste, ce sera Javagor.
Peut-être sur la fin, hein, parce qu'il nous reste
sur la fin, il nous reste assez peu de temps, du temps pour parler eh bien, justement des rencontres mondiales du logiciel libre qui se tiendront à Strasbourg cette année.
Du 9 au 14 juillet 2011, effectivement à Strasbourg. Petite particularité, ça commence en fait par les journées grand public, donc le samedi et le dimanche sur la place Broglie devant l'Opéra.
Voilà, contrairement aux précédentes éditions où c'était l'inverse, on démarrait par le gros des conférences et du village associatif pour
terminer,
inciter les gens des rencontres à se déplacer vers le public en centre-ville. Là, c'est plutôt une bonne idée finalement de faire, ça risque de drainer plus de public sur les conférences et le village.
Oui, parce que juste le lendemain, donc du dimanche, le lundi, on embraye directement à l'université de Strasbourg, dans les bâtiments Le Patio, la faculté de droit, bâtiment Le Platane. On va retrouver, on est 10 amphis pour les conférences, des salles de thématiques, une install party permanente, une boutique, une consigne, des salles de repos pour les bénévoles, le staff, etc. Radio RMLL aussi également présente. Plus le village des associations qui se retrouvent donc au patio, ils factorisent, hein, parce que j'ai vu les lieux et tu te dis avec les 110
ça va pas rentrer
avec les 110 assos de l'année dernière quand même, hein, comment faire tenir tout ce monde. Et en fait ça va être factorisé, donc il y aura des îlots où par exemple la distribution Ubuntu sera l'honneur, et avec les associations qui œuvrent pour Ubuntu. Mmh. Donc elles seront regroupées par thème comme ça, et donc des fournisseurs d'accès associatifs sont regroupés également, donc différentes distributions, les thèmes aussi éducatifs ou associations œuvrant pour l'éducation également regroupées. En tout cas, ça va faire des sortes de mini-village dans le village, en fait. Ça va être assez intéressant. Le seul petit problème, c'est peut-être l'électricité un peu vétuste de l'université qu'il faudra bien aller chercher quelque part.
Big. Ouais. On le rappelle, hein, les rencontres mondiales du logiciel libre se tiennent, bien même si elles sont mondiales, traditionnellement jusqu'à présent en France. Je crois que l'année prochaine, ce sera en Belgique. Donc,
Du
côté de Liège. Propose plusieurs centaines de conférences, d'ateliers, le village associatif, la table ronde politique. Donc ils sont abordés, ils sont démontrés, ils sont exposés, ils sont proposés. On va dire toute l'actualité du développement logiciel libre dans les thèmes les plus variés comme l'éducation, la recherche, la santé, l'accessibilité, l'industrie, le monde de l'entreprise, l'enseignement,
les collectivités
aussi. Le multimédia, la création artistique, puisque depuis quelques années les rencontres proposent des nocturnes qui...
Alors justement, les deux premières journées, disons le soir, le samedi 9 et le dimanche 10, ça sera donc devant l'Opéra à Strasbourg. Et le reste de la semaine, c'est directement sur la place Rouge, de la faculté de droit, ça s'appelle comme ça. Et c'est toujours au même endroit, et donc ça va être très regroupé, puisque les bâtiments sont proches d'une centaine de mètres, hein, c'est vraiment pas très très loin. Et donc on est dans un univers des rencontres mondiales du logiciel libre pendant 4 jours.
Voilà, du 11 au 14 juillet, donc pour toutes ces conférences et le village associatif. Alors pour l'instant, sur 2011.rmll.info, on a un petit résumé, on va dire. On est à 2 mois de la manifestation. Et donc tu étais à Strasbourg ces jours-ci pour commencer à...
La semaine dernière, et donc il y avait une war room. Alors déjà pour voir les bâtiments, etc., pour voir... où ça va se passer au niveau du réseau, puisque nous on s'occupe de la partie réseau, parce que c'est assez démentiel au niveau taille d'espace, disons de salle, etc., équipé, voir où ça pêche, etc. Il y a une très belle infrastructure quand même locale, hein, au niveau sono, dans les amphis, c'est bien équipé, pourront se reprendre dessus pour les captations, ça va être très très bien. Et effectivement, pour le site web, c'était la War Room la semaine dernière. Et ils Conseil de guerre, et ils remettent ça évidemment cette semaine pour sortir le site.
Le plus rapidement possible, voilà. Interface de réservation.
Alors, je vous donne
programme.
juste un indice, c'est un SPIP. Et donc sur 2011.rmll.info, les petits geekers, si c'est un SPIP, il y a une page plus intéressante que index.html. Donc on peut voir déjà un petit peu le site derrière. Donc là, je l'ai sous les yeux. Il s'agrémente et il va être lancé officiellement très très bientôt, puisque il y a les réservations qui doivent être faites aussi. On fait appel aux bénévoles pour aider l'orga. Hein. Ils sont quand même une dizaine, mais c'est pas assez suffisant évidemment pendant les rencontres mondiales pour tenir les différents postes. Hein. Mm-hmm. Donc il faut du monde, et puis aussi il faut réserver à l'avance. C'est nuté, etc. Donc
ça commence à chauffer drôlement. Et puis on ne saurait passer sous silence radio.rmll.info, qui donc officiera dans un bocal. Comme ça, on pourra voir
une
les
salle
gens
de réunion,
faire de la radio.
Voilà, une salle de réunion avec des baies vitrées, donc tout proche du village, vers le coin détente du village. C'est bien, cette proximité. Et puis ça va être quand même assez calme. C'est assez isolé phoniquement, donc ça va être bien.
Voilà, avec nos amis de Autre Monde, les pros de la radio éphémère, Divergence FM, probablement Radio Panique, et puis d'autres radios qui se sont jointes ou qui se joindront cette année encore à Radio RMLL, qui sera donc qui proposera à peu près entre 6 et 8 heures, sans compter les nocturnes, de programmes par jour, qui seront repris plus ponctuellement sur les ondes hertziennes de Divergence ici à Montpellier.
Et de RBS à Strasbourg.
Et de RBS à Strasbourg, puisque une radio hertzienne a été trouvée et qui reprendra une bonne partie des programmes qui seront réalisés par l'équipe de Radio RMLL, donc entre le 9 et le 14 juillet, depuis Strasbourg. Avons-nous fait le tour?
Oui, tout à fait, oui.
Et bien maintenant, peut-être 2-3 petites news vite fait de l'agenda.
Alors n'oublions pas que la semaine prochaine, c'est Solution Linux à Paris. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y, c'est entrée libre. Des professionnels sur le libre et un village associatif également. Le 15 mai, au cinéma Utopia à 10h, c'est ciné libre avec projection des films de la fondation Blender. Donc les différents projets, Elephant Dreams, Big Bug Danny et Sintel, et en présence du directeur artistique justement du dernier projet.
Voilà, donc un rendez-vous à ne pas rater. Et puis toujours dans l'idée de graphics, il y aura un libre graphics meeting 2011, ça se passera à Montréal du 10 au 12 mai. Et même au 13 mai, que dis-je, donc voilà, sans doute qu'il y aura aussi pas mal de monde autour de ces questions du graphisme sous Linux. Je crois que nous allons devoir nous quitter.
Oui, merci à tous de nous avoir écoutés, que vous soyez français, belge, québécois.
Et nous aurons l'occasion la semaine prochaine d'écouter Javagore et Pirgint Lobogris, puisque là on n'a plus vraiment plus le temps, puis ce serait un petit peu couper les morceaux, ce qui n'est pas trop dans nos habitudes. On vous souhaite une bonne semaine, bien libre et bien bonne.
Oui, à la semaine prochaine.
Salut Pascal. Et nous ne partirons pas sans saluer nos amis de CKIA à Québec qui nous écoutent assez régulièrement, ainsi que de Radio Escapade. Ça aurait été dommage de terminer sans leur faire un petit coucou.
Et oui, merci à vous tous.
Terrace Networks.